qui fait l'assurance d'avoir un référendum dans un premier mandat, la question se pose.
L'invite demain.
Oui, c'est ça. Parce qu'à l'heure actuelle, là, quand on regarde les intentions de vote au Québec, un gouvernement minoritaire, ça serait pas impensable de penser à ça. Mais on verra bien, là, on vient de sortir de l'élection fédérale. On va attendre un peu avant de tomber dans l'élection provinciale qui est prévue pour le mois d'octobre 2026. OK, je veux qu'on parle un peu de l'avenir de Pierre Poilievre. Le soir de l'élection, Pierre Poilievre s'est adressé à ses partisans. Il dit, bon, grosso modo, je vais rester. Il l'a dit en d'autres mots, mais c'est ça que ça voulait dire. Mais là, il y a des voix qui s'élèvent. Puis je l'ai vu, j'ai lu plusieurs articles aujourd'hui dans les médias du Canada anglais. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est peut-être pas une bonne idée qu'il reste chef du Parti conservateur.
Oh mon Dieu, les sources anonymes. En même temps, moi, je vais t'amener dans l'arrière-plan sur ce qui se passe réellement dans l'équipe conservatrice, dans le caucus. Il y a ceux qui l'appuient et qui veulent certains changements, certains mea culpa. Il y a ceux qui sont très sceptiques. Et bien sûr, il y a une petite minorité, je dirais, qui ne veulent pas lui donner une deuxième chance. Monsieur Poilievre, présentement, doit faire certaines choses, selon moi. Par exemple, la première chose, c'est l'introspection. Si je comprends bien, il est présentement en train de faire des téléphones aux membres de son caucus pour prendre le pouls. Ce que la vaste majorité s'attend, c'est deux choses. Et je l'ai dit sur notre émission, M. Poilievre a fait une très bonne campagne, mais elle n'était pas assez bonne pour gagner. Donc, il y a eu des erreurs majeures. L'introspection qu'il doit faire, c'est est-ce que je continue avec la même équipe de leadership que j'ai eue pour cette campagne. En 2004, puis je fais toujours le parallèle de 2004. En 2004, Stephen Harper a perdu l'élection. Et je dois avouer avec honnêteté et transparence que M. Harper n'était pas prêt en 2004 pour devenir premier ministre. Et je pense que c'est exactement le même scénario pour M. Poilievre. Mais il a fait des changements majeurs au sein de son équipe à l'époque, M. Harper. Je pense que M. Poilievre doit faire la même chose. Le dernier point sur M. Poilievre, est-ce qu'il va prendre la maturité nécessaire pour avoir l'étoffe du premier ministre? Et qu'est-ce que je veux dire par cette maturité? Je pense que c'est comme un Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ce que nous avons vu lors des deux débats en anglais et en français, c'est ça l'étoffe d'un premier ministre. Ce que nous avons vu à plusieurs autres reprises, la façon de répondre, même parfois à des journalistes qui sont très fiers, comme Paul Larocque, de s'acharner parfois trop sur certaines choses. J'ai toujours qualifié l'autre personnalité de M. Poilievre comme pisse-vinaigre, trop abrasif. Si, selon moi, il ne peut pas répéter le 2 heures du débat en français et le 2 heures du débat en anglais, c'est retour à la case de départ. Donc, beaucoup de réflexion. Et les prochaines étapes, c'est 1, trouver quelqu'un. Puis là, j'ai une idée de fou en passant. Trouver quelqu'un.
Quelle est-elle?
Mais je vais te la dire, puis j'espère qu'il ne nous écoute pas. M. Poilievre doit trouver quelqu'un, un député actuel, qui va céder sa place pour qu'il puisse se présenter, parce que présentement, il ne peut pas rentrer dans la Chambre des communes.
Non.
Je sais qu'il y a plusieurs députés du Québec qui ne vont pas se représenter lors de la prochaine élection. Et si Pierre Poilievre choisissait le Québec pour être député du Québec, son épouse est montréalaise, et le prochain chef conservateur pour être un chef qui représente une circonscription du Québec. Je veux répondre à la question de Nathalie parce qu'elle en dit beaucoup. Donc, 2021, combien tu penses de personnes ont voté dans l'élection générale contre de M. Poilievre? Donc, il y a 2 ans. Je vais te dire, il y avait à peu près 50 000 personnes qui ont voté. 2025, plus de 80 000 personnes ont voté lors de cette élection. En 2025...
Là, tu parles dans le comté de Pierre Poilievre?
Oui.
OK. D'accord.
Donc, en 2021, M. Poilievre a eu 36 000 votes. En 2025, il a eu près de 40 000 votes. Donc, près de 4 000 votes de plus, mais il a quand même perdu. Il y a eu un turnout de 80 % dans sa circonscription.
Il y a beaucoup de gens qui voulaient voter contre lui. Merci beaucoup, Dimitri. On se retrouve demain.
Salut, Philippe.
Salut. Au retour, Valérie Beaudoin.
98.5, circulation.
Autour des Laurentides, on est rendu après de la Concorde. 13 Sud, Côte de l'Iès, terminé le camion en panne à la hauteur de Gouin. 13 Nord avant Hickmore et avant la 640. 25 Terrebonne avant l'avenue Marcel-Villeneuve. Et on ralentit quelque peu dans le secteur de Pinneuf. Pont-Samuel-Champlain, c'est avant de la Vérendrye. Tunnel La Fontaine à Beaubien, c'est un 50 à 60 minutes. C'est avant de Mortagne en direction de Montréal. Pont-Charles-de-Gaulle, on arrive à Marien. 20 Est avant le boulevard Bouchard. 20 Ouest, on est toujours à Turcot. 40 Est, très lourd à partir de Côte-Vertu. Et ça va très bien pour le métro. Pour des produits frais et de qualité, Adonis, c'est votre destination. Dernière journée aujourd'hui pour profiter du bœuf haché extra maigre à 5,99 $ la livre.
Parce que la mode, c'est bien plus que des vêtements. Ici Karine Vanas. J'anime une toute nouvelle émission où je pars à la rencontre de designers et d'artisans passionnés partout dans le monde. Suivez-moi dans Cousu, les jeudis 21h sur TV5.
Grande vente d'entrepôts d'électronique chez Sonic Direct dès vendredi 15h. Parfait pour regarder des séries, téléviseurs intelligents mini LED, ULED, Google 4K, 65 pouces, seulement $399. Et tout ce qu'il faut pour vos rénovations printanières. Revêtements de sol, carreaux muraux et gazon artificiel au meilleur prix. Sonic Direct, 68-69 Henri Bourassa Ouest, Ville-Saint-Laurent. Détails au sonicdirect.ca.
Résolument canadienne. C'est dans l'ADN des emballages Carousel. Canadienne parce qu'elle investit dans l'économie nationale. Parce que Carousel est le plus grand distributeur d'emballages 100% canadien au pays. Et surtout, canadienne parce qu'elle soutient les entreprises locales avec une grande diversité de produits d'ici. Et parce qu'elle continue de bâtir des relations d'affaires avec les entreprises canadiennes. Achetez canadien sur carousel.ca.
Clôture Prestige, le maître de la clôture au Québec. Soumission gratuite en moins de 48 heures pour vous offrir qualité et sécurité absolue. Clôture Prestige, fier partenaire de Fiberwood, votre spécialiste en composite.
Bell Pure Fibre, c'est la technologie Internet pour les applications à haute performance. Ça utilise des signaux lumineux transmis par fibre optique. Ça permet une énorme bande passante, une basse latence et c'est pas impacté par l'interférence électromagnétique.
Dans le fond, là, c'est un Internet super rapide, parfait pour jouer en ligne et regarder des vidéos sur plusieurs appareils en même temps. Passez à Bell Pure Fibre, l'Internet le plus rapide au pays selon Ookla. Obtenez Internet Fibre 500 pour $70 par mois. Visitez Bell.ca pour les détails et pour vérifier la disponibilité. Quand tout est clair, la vie est belle.
Salut, c'est Eric de Lebo Vitres d'Auto. Vous en avez assez de regarder à travers un pare-brise fissuré? C'est vraiment le temps de prendre les choses en main. Heureusement, chez Lebo, on est là pour vous aider. Nos experts s'occupent de tout pour vous. On remplace votre pare-brise, on recalibre votre caméra avant et on transmet même votre réclamation d'assurance. Tout ça en un seul rendez-vous. Avec Lebo Vitres d'Auto, c'est simple. Vous avez juste à prendre rendez-vous sur lebo.ca.
Lebo.
Ça donne envie de rénover. Jusqu'au 25 mai, profitez de rabais allant jusqu'à 50% en ligne ou en magasin. C'est le moment ou jamais d'en profiter.
Flordeco.ca.
Pour tout suivre en direct.
Pour ne rien manquer lors de vos déplacements,
téléchargez l'application Cogeco Média.
Cogeco Média.
98.5.
Politique américaine. Avec Valérie Beaudoin.
Valérie, on sait que Mark Carney et Donald Trump se sont parlé au téléphone hier et aujourd'hui, dans une allocution devant un certain nombre de journalistes, Donald Trump est revenu sur cet entretien.
Oui, il a dit que ça s'est très bien déroulé. Il a dit aussi que les deux candidats, parlant de Pierre Poilievre et Donald Trump, le détestaient, mais que Mark Carney, finalement, c'était lui qui le détestait le moins dans sa perception et que les conservateurs l'haïssaient, on va dire ça en bon québécois, encore plus. Il disait que c'est un « pretty liberal guy », alors quelqu'un assez de gauche. Il dit, je l'ai félicité. L'appel n'aurait pas pu être mieux que ça. Il a été très gentil.
Très, très gentil.
Il a dit que c'était un gentleman, mais il a dit qu'il y avait des signaux mixtes. Alors, en anglais, on dit mixed signal. Dans la discussion, est-ce que ça veut dire le fait qu'il dit en public qu'il ne veut pas nécessairement négocier à tout prix avec Donald Trump sur certaines conditions et tout ça, et que finalement, au téléphone, Donald Trump, ce qu'il laisse entrevoir, c'est que Mark Carney était peut-être tout doux avec lui, si on compare à ce qu'il a dit dans certains discours. Donc, on verra. Il y a toujours deux versions à l'histoire. Hein. Je donne l'exemple avec la présidente du Mexique il y a un certain temps. Donald Trump avait dit, parfait, elle est très contente, il va arriver X, Y choses à la frontière dès demain. La version de la présidente mexicaine, c'était pas exactement ça qu'on a dit. Ce que j'ai dit, c'est que ça, c'était déjà en place et j'ai pas rien annoncé d'autre. Alors, j'attends de voir quand même la réaction du bureau du premier ministre du Canada pour savoir est-ce qu'on a la même version. Est-ce qu'il y aura bel et bien une rencontre dans une semaine au moins? Parce que Donald Trump nous laisse entendre que c'est vraiment dans les prochains jours qu'il y aura cette rencontre entre les deux. Et encore une fois, je pense qu'on s'en parlait hier. Ça va être un jeu tellement dangereux pour Mark Carney. T'as pas le choix de rencontrer Donald Trump. Si ça se fait dans le bureau ovale et qu'il y a une confrontation, qu'il le remet, il parle du 51e État, il lance des pointes aux Canadiens, Mark Carney n'a pas le choix de réagir. S'il réagit trop, est-ce que Donald Trump va faire comme avec Volodymyr Zelensky?
Oui, et que ça finit comme ça, puis il part en chicane et tout, et tout, et tout.
Et qu'il est mis dehors de la Maison-Blanche, qu'il n'y a pas de négociation. Et je veux dire, je ne voudrais pas être à sa place pour avoir à faire face à cette situation-là. Ça va être un balai très, très délicat entre les deux.
C'est délicat d'aller à la Maison-Blanche. Oui. Mais d'un autre côté, il n'est pas parlé à Mar-a-Lago non plus.
Non.
Alors, je ne sais pas trop comment tu peux régler ça.
On a comme des mauvais souvenirs.
Puis, je ne pense pas que c'est une bonne idée de l'inviter au Canada non plus.
Ben, il vient de toute façon au mois de juin pour le G7. Alors, normalement, il faudrait quand même qu'il y ait une rencontre entre les deux avant. Parce que juste de se voir en marge du G7, je ne pense pas que c'est suffisant dans les circonstances.
Peut-être que le meilleur moyen, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est qu'il n'y ait pas d'apparition conjointe après la rencontre.
Est-ce que les Américains vont accepter ça?
Ah, parce qu'ils aiment ça, Donald Trump.
Absolument. Hein?
Après une rencontre avec un chef d'État étranger, un premier ministre, s'installe et puis là...
Et c'est pas tous des vrais journalistes qui sont là, je vais le dire. Là, il y a des gens qui sont là pour avoir des questions qui mettent dans l'embarras la personne. Mmh. Comme on se souvient, cette espèce de pseudo-journaliste MAGA qui avait demandé à Zelensky, est-ce que vous allez un jour vous habiller en complet pour venir dans le bureau ovale? C'est un chef d'État en temps de guerre. Alors,
et on sait, quand ça se passe comme ça, c'est très difficile pour le politicien. Oui. Souviens-toi, après le débat, quand des gens qui se font passer pour des journalistes au Canada.
Oui, on a eu notre version ici.
Oui, voilà, qui sont allés poser des questions, puis c'était pas des questions du tout, là, c'était pas un travail journalistique, c'était simplement de la propagande pour la cause qu'ils défendent.
C'est ce qu'on a appris aussi, même ça avait été financé, tout ça. Ouais. Alors, voilà.
Exactement. OK, donc, ça sera une rencontre, très, 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 très importante, parce que là, il amorce son mandat, et cette rencontre-là pourrait donner le ton un peu à la façon dont Mark Carney va mener les choses au cours des prochaines semaines. Aujourd'hui, on peut se disputer un peu sur la journée. Est-ce que c'est hier? Est-ce que c'est aujourd'hui?
On a eu un débat, on a calculé ça à la mitaine, comme on dit, sur
exactement.
Nos doigts.
Et on en est venu à la conclusion que quand Donald Trump a prêté serment autour de midi le 20 janvier dernier, ça fait 100 jours. Hein, il y a eu 100 jours de ça à midi aujourd'hui.
On est encore, on va dire, dans la centième journée de la présidence Trump. Ce que je te disais tout à l'heure en tour de table, c'est que j'ai l'impression que les deux premières semaines, voire les deux premières journées, étaient pratiquement plus importantes que le 100 jours au complet. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment établi quelle serait la présidence Trump, de quel type, avec quelle façon de gouverner, avec des décrets, avec justement des tarifs, avec tout ce qu'il a dit en campagne électorale, de dire les politiques diversité, équité, inclusion, c'est terminé. Par exemple, l'environnement, c'est drill, baby, drill. Alors, tout ça, c'est arrivé rapidement. Tu te souviens, la première journée, là, plus de 20 décrets ont été signés. Jusqu'à maintenant, le décompte que j'ai, le dernier que j'ai regardé, c'est 135 décrets. C'est plus que tous les présidents de toute l'histoire. Et dans
ce qui a permis de régler l'épineux problème des pommeaux de douche aux États-Unis.
Ah, attends. Là, j'ai pas le choix de faire passer une petite clip. J'ai quelque chose sous la manche.
OK.
Parce qu'on va revenir après aux 100 jours de Trump, mais rapidement, il y a Jimmy Kimmel qui s'est un peu moqué de Donald Trump.
Lui, c'est un animateur de talk show de fin de soirée.
Exactement.
Là.
Alors, je vous le dis, c'est un ton humoristique. Il a dit, voici les plus grands accomplissements de Donald Trump. C'est lui qui le dit. Alors, voici ce que le petit montage fait à l'émission de Jimmy Kimmel.
The first of these is an executive order. The Biden administration launched what you've called a war on showers.
I like to take a nice shower to take care of my beautiful hair.
This is an executive order relating to the use of paper straws.
This is very important. Very proud of this Gulf of America. We identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas.
Alors,
oh boy.
C'est à la blague. Bon, les douches, parce que là, tu m'as ouvert une porte. Les douches de Donald Trump, les pommeaux de douche, c'est un petit important ça. Les pailles, fameuses pailles. T'en parlais avec Jessica tout à l'heure, les dangereuses pailles en papier. Mm-hmm. Le Golfe de l'Amérique, l'histoire des condons à Gaza là, pour 500 millions, que c'était pas ça du tout. Là. C'est pour un pays en Afrique, si je me trompe pas, justement.
Tout à fait.
Bref, alors, il y a eu des choses un peu loufoques. On a eu droit à ça pendant la campagne de Donald Trump, pas la campagne, mais la présidence de Donald Trump. Et aujourd'hui, pour marquer les 100 jours, je sais pas si les gens ont vu les images, mais on était sur une longue table avec les membres du cabinet, chacun avec une casquette Make America Great Again. Et là, on se félicitait à tour de bras. Et il y a des commentateurs conservateurs américains qui ont dit, c'est le fun, là, on est content du bilan, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir l'air de la Corée du Nord? Parce que l'image d'avoir ça un peu sectaire, là, que tout le monde a sa casquette comme Trump, puis qu'on est tous en train de se donner des tapes dans le dos sans avoir des vrais échanges et tout ça, ça donne pas pour... Il y a beaucoup de conservateurs